Je m'appelle Christine Duprat. J'ai rejoint les donneurs de voix depuis un an. J'ai deux passions, courir en montagne et lire. La lecture emmène partout. Découvrir, s'évader, comprendre, rêver, voyager, fantasmer. La lecture, c'est fou. C'est pour partager les plaisirs de la lecture que j'ai rejoint les donneurs de voix. Lire et enregistrer pour que vous puissiez, vous aussi, vibrer, vous émouvoir, rire, pleurer, avoir peur, être impatient de connaître la suite. Alors, en 2023, osez découvrir de nouveaux livres, de nouveaux mondes, de nouvelles émotions. Et pour 2023, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, et beaucoup, beaucoup d'écoute de livres. Christine.
Maurice, audiolecteur de la Bibliothèque sonore de Grenoble. Je vais vous parler d'un roman d'Henri Troya, Les semailles et les moissons. J'ai découvert Henri Troya, cet écrivain, ce romancier, par cette chronique familiale et romanesque française qui commence vers 1870 et nous emmène jusqu'à la libération de Paris en 1944. Au fil de ces 5 tomes, Les semailles et les moissons, Amélie, La Grive, Tendre et violente Elisabeth et enfin La Rencontre. Pourquoi me suis-je passionné à l'écoute de cette saga? Je crois parce que cet écrivain possède le talent rare de nous faire entrer dans son univers comme si on entrait dans la maison d'un ami. On s'attache à ses personnages, on partage les espoirs et les doutes d'Amélie, on souffre avec Pierre Mazaleg et on regarde grandir Elisabeth. Troya y décrit très bien cette longue période, s'attardant sur les faits historiques sans s'y appesantir. Les personnages sont attachants et j'ai eu beaucoup de mal à les quitter après les avoir côtoyés pendant de longues semaines. Le premier roman de cette saga commence à La Chapelle aux Bois, une bourgade corrézienne à la veille de la Grande Guerre. C'est là qu'a grandi Amélie Oubernat, entre un père forgeron, qu'elle adore, et une mère un peu fantasse qui tient la petite épicerie-mercerie du village. À 18 ans, la jolie et farouche Amélie sait que ses pensées et tous ses sentiments vont vers Pierre Mazaleg, qui rêve lui aussi de l'épouser. Ainsi débute cette chronique familiale, ce roman d'amour raisonnable et passionné. Dans Amélie, le deuxième volet de cette série, on retrouve Amélie, mariée avec Pierre Mazaleg, tenant un café à Paris. Ce n'était pourtant pas à l'origine sa vocation, car un café était à ses yeux un lieu de perdition. Mais après son mariage, elle quitte avec Pierre leur bourg natal de La Chapelle aux Bois pour la capitale. Et là, se laisse convaincre que le meilleur moyen de gagner leur vie est de devenir les patrons d'un café, le cycliste couronné. Puis la guerre éclate. Amélie se retrouve seule en cette année 1915. Avec beaucoup de courage, de pugnacité, elle va prendre en main les destinées de son bistrot parisien en l'absence de son mari. Elle ne vivra plus désormais que dans l'attente des nouvelles de Pierre, avivée bien sûr par l'angoisse qui est le lot de toutes ses épouses, de toutes ses mères qui ont un être cher en perpétuel danger dans cette guerre. Les personnages sont attachants, bien incarnés. On accroche avec facilité au rendu du Paris début de la Première Guerre. On admire la jeune Amélie, symbole de ces femmes qui, dans les travaux agricoles, dans les usines, vont remplacer tous ces hommes mobilisés. C'est sur le retour de Pierre, gravement blessé en 1916, que s'achève ce volume. La Grive, troisième volet de Semailles et des Moissons, nous plonge dans le monde d'Elisabeth, fille de Pierre et d'Amélie Mazaleg, personnage principal de ce roman. C'est une petite fille rêveuse et fragile, mais combien attachante avec ses joies, ses peines et ses blessures. Elisabeth a 10 ans et vit dans un monde enchanté que représente à ses yeux le cristal, ce café Montmartre-Croix exploite à présent ses parents. Mais pour rétablir sa santé compromise, elle sera envoyée dans une institution religieuse à l'autre bout de la France, la pension Sainte-Colombe. Quel changement, quel contraste avec l'univers parisien. Entendre et violente Elisabeth, nous quittons le monde des bistrots populaires de Paris, mais aussi celui de la province rurale. Ils sont issus, Amélie et Elisabeth. Le charme de ce quatrième tome réside dans le fait qu'il propose la chronique d'une certaine douceur de vivre et d'insouciance d'avant-guerre. On se laisse aller avec délices à cette chronique de la vie d'un petit hôtel à la montagne, plus exactement à Megève, avec ses clients et leurs manies, les disputes et les petits fracas du personnel, les amitiés et les amours qui se lient et se délient. J'ai trouvé beaucoup de plaisir et de bonheur à l'écoute de ce quatrième tome. Enfin, la rencontre, cinquième et dernier tome de cette série, m'a particulièrement touché pour avoir été le témoin de cette époque. La saga familiale, l'histoire se mêle pour nous entraîner dans un récit palpitant où l'on retrouve tout ce qui a fait le sel de l'ensemble de cette série. La crédibilité des personnages, les sentiments vrais, le rythme constant qui ne faiblit pas. Nous sommes à Paris en 1938. Elisabeth tient un petit magasin de disques, rue Marbeuf, libre, solitaire, secrète. Elle est décidée à défendre sa tranquillité coûte que coûte. Elle est entraînée dans d'orageuses aventures auxquelles va bientôt se mêler le grondement de la guerre. À travers ces épreuves, Elisabeth s'efforce en vain de découvrir sa voie. C'est au moment où elle croit avoir tout perdu qu'une rencontre décisive se produit. Celle d'un homme qui lui rendra confiance en elle-même et en l'avenir. Boris. Dans ce Paris sous l'occupation allemande, l'auteur a parfaitement mêlé le futile et le douloureux, l'amour et la haine, la peur et le courage. C'est vivant, c'est intense et ça s'écoute avec bonheur. Par son comportement, Elisabeth peut agacer, mais en même temps, elle est touchante, car dans ces périodes troublées de guerre, et à cette époque, il n'est pas facile d'être une femme seule et libre. Encore une fois, ce fut un enchantement de découvrir les cinq volets du roman d'Henri Troya. Ils sont terriblement addictifs, tant par l'intensité de leur histoire que par l'écriture de l'auteur, qui est incisive et tellement fluide. C'est avec la libération de Paris que s'achève cette belle saga d'Henri Troya. Je ne voudrais pas terminer sans souligner avec force le talent du donneur de voix qui a su me faire vivre avec cette passion, cette saga, par ses changements d'intonation, par ses imitations, ses silences angoissants annonciateurs d'un événement requérant toute mon attention.
Voici deux extraits du livre « Alchimie des mots » écrit par Louisette Mur-Amalvi, écrivain, poétesse, audiolectrice. Un sera lu par Nicole et Jean-Pierre Fantinuti et l'autre par Nicole seule. Le petit lutin. Petit lutin aux doigts d'argent, au beau regard de firmament. Pourquoi as-tu mis ton bonnet de travers ?
C'est pour mieux voir le monde à l'envers.
Tu ressembles à Jean de la Lune.
C'est pour mieux rêver sur la dune.
Tu as un air si tourmenté.
Toutes les maisons sont verrouillées.
Alors, petit lutin, que vas-tu faire ?
Ce que je vais faire, je suis le messager de l'an neuf. Je vais me glisser dans la cheminée, même si j'ai perdu mon bonnet. Ou s'il penche de l'autre côté, ou si j'ai l'air d'un ramoneur. J'arriverai à la belle heure, à minuit, sans bruit, et je ferai voler en éclats la nuit.
Et ta colombe, petit lutin, l'as-tu oubliée en chemin ?
Elle m'a échappé des doigts. Elle vole par-dessus les toits, par-dessus les bois, de pays en pays. Elle défie les lois pour semer de la joie, du bonheur dans les cœurs, dans tous les cœurs, même les plus fripés, les plus altérés. Tous, cette nuit, elle nous convie au grand traité de concorde et de paix.
L'amour fait la loi. Il était une fois au bord du canal un sapin grand comme un épouvantail. Il disait « Je suis trop seul ici, il fait si froid. Je veux des plumes en guise de doigts, des plumes d'oie. » « Des plumes d'oie ? » dit la mère oie. Ainsi paraît, il devint roi et il vola au fond des bois. « Vive le roi ! » crièrent les chamois. Un petit lutin nommé Éloi lui demanda « Veux-tu de moi ?»« Ma foi, par saint Éloi, viens sous mon toit. » Et le petit Éloi et le grand roi passèrent la nuit dans ce grand bois. Ce soir-là, il y eut un grand élan de joie. Le bon vieux roi, sapin, ma foi, donna ses plumes au petit Éloi qui tremblotait de froid. Le petit Éloi, ému par ce grand vieux bon roi, appela les chamois, les oies, les boaboas, tout ce qui existe dans les grands bois, pour couronner ce vieux grand roi. Une étoile en haut de ses bois, et à chaque aiguille de bois un fil doré de soie. On admirait ce grand vieux bon roi, et l'on chantait à pleine voix. Il a donné au petit Éloi ses plumes d'oie, parce qu'il tremblotait de froid. L'écho modula toutes ses voix en une mélodie intense. Elle voyagea. Elle traversa monts et vallées, plaines et frontières. Elle tournait autour de la terre. Plus légère que l'air, plus vive que le vent, nul ne pouvait la faire taire. Elle laissa derrière elle la grande forêt de Bohême. Le long du grand fleuve Danube, elle glissa. Et avant de franchir les Carpates, elle tournoya au-dessus de la ville de Vienne, au-dessus des flèches des cathédrales, des monastères, des casernes militaires, des tours, des châteaux, des palais et de tous ces quartiers blottis contre les hautes murailles. Le grand compositeur Ludwig van Beethoven, penché sur son clavier, absorbé dans l'écriture de sa symphonie, suspendit son élan créatif. Mais, se dit-il, ce souffle vient du fond des bois, c'est un bruissement de feuilles, un rire d'enfant, des frissonnements d'ailes, la harpe du vent, toute la forêt chante, les chamois, les oies, les boaboas, et même l'hirondelle, la colombe, la tourterelle, un tutti magistral, le loup, le hibou, l'engoulevent ulule, toutes ces voix m'appellent. Si troublé, si impressionné fut le grand compositeur que dans sa tête il y eut comme une révélation. La flûte zinzinula, puis, comme une vague de fond, tous les instruments s'élevèrent. Le basson, le hautbois, la contrebasse, le violoncelle et les notes du piano ruisselèrent. Dans une illumination souveraine, le cœur du grand compositeur battait le tempo. Ce soir-là, en cet an 1824, sous les doigts de Ludwig van Beethoven, jaillit l'hymne à la joie. « Écoutez, écoutez !» murmurèrent les habitants des bois. Cette fois, l'amour fait la loi. Note. En juillet 1971, l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe adopta cette mélodie comme hymne européen. Décision suivie par notre Conseil des ministres.
Bonjour, je suis Marilyn, donneuse de voix à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Je vais vous lire une poésie tirée du livre « Les plus beaux poèmes d'hier et d'aujourd'hui ». Voici Noël. Voici Noël. Voici les flocons bleus, voici les mots que je voulais te dire, et voici le lait, l'orange et la cire qui se consument auprès d'un cœur en feu. voici Noël. Aux clartés, aux mystères, tous les oiseaux vont se mettre à chanter, et je t'apporte une rose d'été où dorment tous les parfums de la terre. Voici Noël. Les vents bercent les blés. Je pense à ceux qui tremblent dans les larmes. Je pense à ceux qui saignent sous les armes. Je pense au cœur comme au grenier comblé. Voici Noël. L'étoile au reflet fin marque ma route, et je suis ce roi mage aux mains emplies et de fleurs et d'images qui te salue au bord d'un vieux chemin. Pierre Gamarra.